Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Ce sont des pathologies souvent tabous qui compliquent la vie, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, qui a récemment contraint le premier ministre japonais Shinzo Abe à quitter son poste. Quels sont les symptômes d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin? Quelles sont les prédispositions génétiques? Quels sont les traitements les plus efficaces? Quelle place pour les mesures hygiéno-diététiques? Quel régime alimentaire faut-il éviter? Les médecines complémentaires peuvent-elles se révéler précieuses? Comment expliquer le nombre croissant de malades? Nous attendons vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Médecin et romancier en duplex de Toulouse. Quel est le menu de votre chronique vers 11h moins le quart?
On va parler de la façon dont nous vivons cette pandémie et l'histoire avec un grand H en train de se faire.
Et vous pourrez évidemment intervenir à votre guise tout au long de cette émission, mon cher Baptiste. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Au réveil de mon anesthésie générale, il s'est avéré que j'avais une vingtaine, trentaine d'ulcérations qui tapissaient la muqueuse intestinale. Donc exactement comme des lésions, des coupures ouvertes, béantes, sur la muqueuse. Et on m'a diagnostiqué de la maladie de Crohn. J'ai très très mal reçu ce diagnostic parce que ça s'est fait de façon hyper violente à la chaîne. Je me suis réveillée, on est venu me voir, j'avais 18-19 ans. On m'a dit, c'est ce que je pensais, c'est une maladie inflammatoire chronique, c'est une maladie de Crohn, on va traiter ça rapidement, merci, au revoir. Sans forcément prendre de pincettes et surtout avec des mots qui me paraissaient hyper lourds. On parle d'une maladie à vie dont on ne guérit pas, qui peut se réveiller à tout moment, sur laquelle on n'a pas de contrôle et effectivement qui change grandement le quotidien et la vie entière. Le sentiment qui a dominé, c'était vraiment la peur.
Le témoignage de Jeanne Demier, atteinte de la maladie de Crohn, c'était en décembre 2019. Bonjour professeur Laurent Perrin-Biroulé.
Bonjour.
Vous êtes hépato-gastro-entérologue au CHRU de Nancy, président du groupe d'études de thérapeutique des affections inflammatoires du tube digestif. Et on peut dire que votre service hospitalier est sans doute le meilleur au monde pour traiter les MICI. En quelques mots, qu'est-ce qu'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ?
Alors c'est une inflammation qui peut toucher tout l'intestin dans le cas de la maladie de Crohn. Dans le cas de la rectocolite hémorragique, elle est limitée au gros intestin, qu'on appelle le côlon. Mmh. Et puis, donc cette inflammation va causer en effet des petits ulcères, des petits trous, qui vont parfois pouvoir être plus profonds. Alors il y a une particularité qu'on oublie souvent, c'est que dans un cas sur deux, ça va toucher en dehors de l'intestin. C'est ce qu'on appelle des maladies systémiques, et ça peut toucher la peau, les os, les yeux, tous les organes en dehors. Et ça complique beaucoup la prise en charge de ces maladies-là, dont la cause, on y reviendra peut-être, reste pour l'instant difficile à appréhender.
Alors il s'agit de poussées inflammatoires qui varient dans la durée, et c'est entrecoupé de phases où tout va relativement bien, ce sont des phases de rémission.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on dit. On dit que ce sont des poussées entrecoupées de rémission. Le gros problème, c'est qu'on ne peut pas les prédire. Donc elles surviennent comme ça, d'un jour à l'autre. Il y a parfois aussi, chaque patient a une évolution très très différente. Il y en a qui vont avoir une rémission pendant 10 ans, 20 ans, puis avoir une poussée, ou d'autres qui auront des poussées incessantes. Donc c'est vrai que chaque patient va avoir son profil.
C'est ce qui est arrivé au premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui est toujours atteint d'une rectocolite hémorragique. Il y a eu une phase de rémission, et puis c'est revenu.
Je connais très bien le cas, oui, ouais. Puisque je vais souvent au Japon et que j'avais été appelé pour justement discuter de son cas. Oui, puisqu'il est d'ailleurs suivi en permanence par un collègue gastro-entérologue japonais. Oui, il a eu, alors lui, c'est une rectocolite hémorragique qui se caractérise plutôt par du sang.
Expliquez-nous un peu.
Alors, la muqueuse, donc à l'intérieur de l'intestin, va s'abîmer, faire des petits ulcères, et ça va saigner. Mmh. On appelle ça une muqueuse qui pleure. Donc quand vous regardez votre caméra, votre endoscope, vous allez voir des petits trous, et puis ces trous vont laisser du sang s'écouler, c'est ce qu'on appelle des rectorragies, et ça peut survenir à tout moment, et en particulier dans la rectocolite hémorragique. Vous pouvez être bien le mardi, et avoir le mercredi, nous on voit des fois des patients qui sont super bien un jour, et dès le lendemain ils nous appellent, boum, j'ai mal au ventre, j'ai plus de 3 selles par jour, ce qui définit une diarrhée. Et puis la caractéristique de la rectocolite hémorragique, j'ai du sang dans les selles. Une autre chose, et ça c'est le stade d'après, c'est que l'état général va avoir un impact énorme, perte de poids, fatigue, et puis aussi une perte d'appétit.
Rappelez-nous à ce stade de l'émission la différence avec la maladie de Crohn.
Alors la maladie de Crohn, elle peut toucher de la bouche à l'anus, et puis elle va faire des gros trous qui vont créer ce qu'on appelle des fistules, donc des trous qui vont perforer l'intestin ou qui vont complètement le rétrécir, faire ce qu'on appelle des sténoses où les aliments ne passeront plus. La rectocolite hémorragique, ça ne touche que le gros intestin et c'est beaucoup beaucoup plus superficiel, ce n'est que la superficie de l'intestin.
Bonjour docteur Catherine Lacronière.
Bonjour Ali.
Vous êtes médecin nutritionniste et vous avez notamment publié chez Albin Michel l'alimentation anti-inflammatoire. Rappelez-nous ce qu'est l'inflammation aiguë, c'est un mécanisme de défense naturelle, et à contrario, les mécanismes de l'inflammation chronique. La différence entre les deux.
En effet, l'inflammation aiguë, c'est un mécanisme de survie. Un corps étranger pénètre et c'est véritablement toutes les lignes de défense de l'organisme qui vont se trouver mises en branle quelque part pour pouvoir éliminer ce corps étranger. Mais lorsqu'il persiste ou qu'il y a une agression constante, multiple, eh bien cette inflammation qui initialement est vitale, elle va s'installer, elle va se pérenniser. Et là, elle va devenir un ennemi de l'organisme puisqu'elle va provoquer un dysfonctionnement des différents organes où elle va s'installer, parce qu'elle peut s'installer partout.
Et que se passe-t-il dans le tube digestif en cas d'inflammation chronique, professeur Perrin-Biroulet ?
Ce qui va se passer, c'est que déjà, il va y avoir un risque de cancer de l'intestin, parce qu'à force d'irriter l'intestin, on sait que ça va pouvoir promouvoir le risque de cancer de l'intestin, donc on va devoir surveiller d'autant plus ces patients. Et puis surtout, ce qu'on craint, ce sont les complications, l'intestin qui va se détruire progressivement avec des trous, des rétrécissements, puisque finalement, l'intestin, c'est un tube, c'est de la tuyauterie, et ce tube va s'abîmer. Et puis aussi, ce qui va se passer, c'est qu'alors qu'il est très élastique, il va devenir dur, fibreux, comme quand vous avez une cicatrice, et donc vous allez devenir incontinent et vous pourrez plus retenir vos selles.
Dans le cas des Mickey, on assiste donc à une inflammation de la paroi d'une partie du tube digestif et c'est lié à une hyperactivité du système immunitaire digestif, c'est ça ?
Oui, en fait, vous et moi, quand on n'a pas de Mickey, en fait, ce qui se passe, c'est que notre intestin, il y a un équilibre qui va se créer et puis ça va maintenir un état normal et malgré les agressions extérieures, notre intestin va arriver à se défendre. Mais parfois, quand nos défenses sont trop faibles ou que notre organisme réagit trop, ça peut être dans les deux cas, et à ce moment-là, il va créer de l'inflammation en réagissant de façon excessive ou insuffisante.
Catherine Lacronière.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il y a des agressions répétées et que finalement tous les systèmes de défense de l'organisme ne sont pas au mieux de leur forme entre guillemets, eh bien ça va s'installer. Et c'est vrai que dans le cas des Mickey, c'est plurifactoriel. Les agresseurs entre guillemets sont présents de manière. Vous le direz très bien là. Il y a parfois des causes génétiques, il y a des causes alimentaires, il y a un certain nombre de causes qui vont faire que il y a un dysfonctionnement. Et l'installation de cette inflammation chronique.
Combien de malades dans la population générale et quelle est la tranche d'âge la plus touchée ?
Alors, actuellement, il y a 300 000 patients en France, donc ce sont devenus des maladies fréquentes. Je dis toujours, quand on faisait des réunions il y a 20 ans, quand on demandait aux gens « est-ce que vous connaissez ces maladies-là » ils disaient non. Et je dirais que malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on fait une réunion, souvent les gens nous disent « ah mais moi je connais quelqu'un qui a ces maladies-là », ce qui est totalement nouveau. Donc 300 000 en France, c'est une véritable maintenant épidémie des pays riches, 0,5% de la population, on pense que ça va encore augmenter.
La maladie est souvent diagnostiquée entre 20 et 30 ans ?
Oui, disons qu'on peut dire quand même que ça survient à tout âge. Donc, un patient à deux patients sur 10, ça sera chez l'enfant. Un patient à deux patients sur 10, ça sera chez le sujet âgé, qui est un sujet très important actuellement. Et puis, le pic, c'est 15-35 ans.
Bonjour Juliette Mercier.
Bonjour.
Alias Stomy Buzzy, vous êtes illustratrice, professeure d'art appliqué, vous êtes atteinte de la maladie de Crohn et vous publiez chez Le Duc Graphique « Ma Crohn de vie, histoire d'une rescapée à l'intestin malade ». Alors, vous vivez une adolescence presque comme les autres. À 15 ans, tout va presque bien, une famille aimante, des amis, des activités qui vous plaisent comme le volley ou le dessin. Sauf que vous éprouvez le besoin d'aller très souvent à la selle, Juliette Mercier.
Oui, c'est ça. En fait, à partir de mes 15 ans, période de janvier-février, période hivernale, de plus en plus, je vais me lever à 5 heures du matin et avoir mal au ventre jusqu'à 11 heures avec des diarrhées. Et donc, on va assez rapidement s'inquiéter et soupçonner d'avoir une gastro-entérite, puisque c'est un petit peu la période. Et puis, au bout du deuxième, troisième rendez-vous chez mon médecin traitant, finalement, elle va m'envoyer chez un gastro-entérologue qui va diagnostiquer la maladie de Crohn suite à une coloscopie.
Et vous passez donc une batterie d'examens médicaux très précis. Racontez-nous un petit peu ce diagnostic de votre maladie.
Alors c'est ça, c'est vrai que à 15 ans, être projeté comme ça dans le milieu médical alors qu'on connaît pas la maladie, que ça se résume plutôt à une grippe, à une gastro qui se règle rapidement, là j'entre dans un système en fait où on va me poser plein de questions sur mes habitudes, sur combien je vais de fois à la selle dans la journée, comment sont mes selles, je fais régulièrement des analyses sanguines, des prélèvements aussi. Et puis l'examen surtout de la coloscopie, qui est un gros examen qui va permettre donc d'aller voir à l'intérieur vraiment ce qui se passe pour déterminer le problème.
Professeur Laurent Perrin-Biroulé, expliquez-nous un peu à quoi servent tous ces examens, que ce soit un examen des selles, une endoscopie digestive, voire une entéro-IRM. Expliquez-nous un petit peu.
Juste pour rebondir un petit peu sur le cas là, c'est un cas assez important parce que en fait les douleurs abdominales et les diarrhées touchent un Français sur quatre à un Français sur cinq. Donc c'est très très fréquent. En général, quand on fait ce genre d'émission, on voit tout le monde qui se précipite chez son gastro-entérologue. C'est ce qu'on appelle les troubles fonctionnels intestinaux. On a mal à l'intestin, un intestin sensible, mais pas d'inflammation quand on fait une coloscopie. Dans la maladie de Crohn, ça entraîne un retard au diagnostic de plusieurs mois. Et souvent, l'intestin commence à se détruire. Dans la rectocolite hémorragique, où il y a du sang dans les selles, les gens vont tout de suite consulter. Donc il n'y a pas de retard diagnostique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a désormais un test de dépistage des MIKI qui s'appelle la calprotectine fécale, qui peut être prescrite par un généraliste ou un gastro-entérologue. Vous allez dans un laboratoire, vous donnez vos selles, et avec une fiabilité très élevée, il va vous dire si vous avez une MIKI ou pas, un test malheureusement non remboursé qui coûte autour d'une 60aine d'euros. L'étape d'après, donc chez cette patiente, ce qu'on fait, la référence, c'est la coloscopie avec des prélèvements. Si on fait pas cet examen-là, on ne peut pas faire de diagnostic définitif de MIKI. Et après, donc, en effet, vous avez raison, on fait une entéro-IRM dans la maladie.
Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, l'IRM, vous savez, il y a le scanner qui irradie, puis il y a l'IRM qui n'irradie pas. C'est cet anneau dans lequel vous allez rentrer, qui est un champ électromagnétique. Et on va regarder tout l'intestin en faisant boire un litre de préparation pour bien visualiser les parois de l'intestin. Ça dure plusieurs minutes, pas toujours très agréable, mais ce qui va se passer, c'est que ça va vous donner la vue de tout l'intestin. Alors que la coloscopie ne voit qu'une partie de l'intestin.
Juliette Mercier, il faut prendre au sérieux un adolescent, une adolescente, un enfant qui se plaint de maux de ventre répétés. Il faut prendre ça au sérieux.
Oui, parce que si on le fait pas, si on prend pas au sérieux, malheureusement, il peut y avoir une errance médicale et puis la maladie peut prendre de plus en plus d'ampleur, s'aggraver et jouer aussi sur l'état mental finalement du patient. Donc c'est un des principaux problèmes aussi, c'est de ne pas être prise au sérieux quand on explique ses symptômes et que c'est pas normal.
Alors que se passe-t-il si on ne traite pas une maladie de Crohn, une rectocolite hémorragique? C'est quoi? C'est un risque de fatigue chronique, une perte de poids, un risque de dénutrition?
Alors je dirais qu'il y a d'abord l'impact sur la vie socio-professionnelle des patients qui est majeur, ça entraîne un handicap fonctionnel qui est énorme, ils n'arrivent pas à retrouver la vie qu'ils avaient avant, on peut plus sortir avec ses amis, plus aller au cinéma, plus aller manger ce qu'on veut, donc ça l'impact il est très très important au niveau du patient. Et puis après quand on prend un petit peu le panel de complications, donc il y a la destruction de l'intestin, le recours à la chirurgie, qui peut parfois aller jusqu'à la stomie, donc mettre l'intestin, à boucher l'intestin à la peau, les hospitalisations répétées, donc ça qui est quand même important, le risque de cancer de l'intestin, puisque cette inflammation va faire le lit du cancer. Donc c'est vrai que ne pas traiter ces patients-là, et d'ailleurs on le voit en cas de retard diagnostique, dans la maladie de Crohn, ils peuvent déjà avoir certaines de ces complications quand on les voit.
Docteur Lacronière.
Et puis nutritionnellement, ça peut conduire à un déséquilibre, d'abord parce que les diarrhées peuvent entraîner des déshydratations, et puis il peut y avoir également des malabsorptions au niveau des nutriments. On peut avoir des problèmes sur le fer, sur certaines vitamines, en particulier la vitamine B12, les folates, la vitamine B9 ou même du calcium. Donc, il faut faire attention à cet état. On peut, c'est vrai, dans des cas ultimes, arriver dans des problèmes de dénutrition, mais heureusement, à partir du moment où les gens sont au courant qu'il peut y avoir une errance diagnostique et que tous les maux de ventre ne veulent pas systématiquement dire syndrome de l'intestin irritable, mais il faut aller consulter son gastro-entérologue.
Juliette Mercier, racontez-nous les désagréments, les graves désagréments socio-professionnels que vous avez vécu et l'impact de cette maladie sur votre entourage, votre famille, vos amis. Racontez-nous un petit peu.
Alors moi, j'ai été beaucoup soutenue par ma famille, mes amis. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'avancer avec voilà des gens autour de moi qui m'aidaient au quotidien, qui m'encourageaient, qui me laissaient pas toute seule. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et puis j'ai commencé en fait avec la maladie de Crohn, ma vie étudiante d'abord. Où finalement ça a été difficile parce que d'un côté on s'insère finalement dans un monde nouveau qu'on connaît pas, on rencontre de nouvelles personnes, on fait des études dans différentes écoles et donc il y a déjà ce premier problème où on se confronte au regard de l'autre. Puisqu'avec un handicap invisible, le problème c'est que on ne décèle pas, donc on peut soupçonner d'autres choses. On peut dire voilà, elle est feignante, elle se lève pas parce qu'elle a pas envie, elle se fait vomir exprès, elle va aux toilettes parce qu'elle est stressée, parce qu'elle fait pas assez de sport. Enfin, il y a tout ça qui devient difficile. En plus du suivi médical qui est contraignant, on doit affronter vraiment au quotidien, finalement, essayer de prouver qu'on est vraiment malade et aussi se protéger pour ne pas culpabiliser en se disant bah, peut-être finalement que c'est ma faute, parce que forcément, au bout d'un moment, on se pose des questions et on se remet en question.
Alors, les MIKI peuvent susciter de la honte, professeur Perrin Biroulet. Oui. La maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique touche au tabou des selles. Et j'imagine nos auditeurs qui se disent, tiens, ce matin, on parle des selles, c'est pas génial. Oui, mais bon.
Oui, non, c'est un point très très important. Quand vous devez expliquer que vous êtes toujours à côté des toilettes, il y a même une application toilette qui a été développée par l'Association nationale de patients, l'AFA. Et les patients veulent, quand ils vont au cinéma, ils veulent toujours au dernier rang, dans l'avion, toujours à côté des toilettes. Donc les gens commencent à comprendre au bout d'un moment. Et puis c'est quand même bien d'en parler. Mais ça veut dire d'avoir la diarrhée. Il y a souvent un raccourci par rapport à la gastroentérite. Donc premier point, ce n'est pas contagieux. Voilà, donc ça je tenais à le dire, vous pouvez vivre avec des gens qui ont des MIKI, qui ont une diarrhée, etc. Ce n'est pas contagieux, il n'y a pas, vous pouvez leur serrer la main, vous pouvez les embrasser. Alors autant en temps de Covid peut-être avec les restrictions habituelles, mais ce n'est pas sale. C'est juste une inflammation à l'intérieur et ce n'est pas des bactéries dans les selles ou des virus. Donc ça, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais c'est pas facile parce que c'est tabou et puis pour les jeunes, c'est encore plus difficile, même si on dit toujours les jeunes, mais finalement à tout âge.
À tout âge, oui.
Je dirais quand même que d'en parler, oui, à tout âge, c'est vrai, je dirais que quand même que d'en parler, les gens, je trouve, maintenant, sont compréhensifs et peuvent vous accompagner plutôt que d'être au boulot et de vous lever toutes les 30 minutes pour aller aux toilettes sans en parler. Je crois que c'est pas la bonne stratégie à long terme.
Juliette Mercier.
Oui, alors là, je suis complètement d'accord. C'est vrai que d'en parler, du coup, ben, on explique le problème et on se justifie en fait de tous ces comportements qui peuvent être un petit peu décalés. Effectivement, comme vous le dites, en fait, c'est vraiment mettre en place un plan quand on sort quelque part, quand on va en ville, se dire bon, là, on va à ce magasin-là. Si j'ai un problème, je peux me rapatrier dans ce bar-là où je peux aller aux toilettes ou dans les toilettes publiques. Moi aussi, j'avais l'application parce que c'est vrai qu'on pense toujours en fait comme ça. Et puis on peut quitter des conversations de manière spontanée parce que ça va pas. Moi, quand j'étais prof, je faisais semblant d'aller faire des photocopies pour aller aux toilettes et je revenais sans rien. Donc, c'est vrai que d'expliquer, du coup, bon, les gens comprennent mieux et sont la plupart du temps quand même bienveillants et comprennent. Ouais.
Et on reviendra, Juliette Mercier, sur l'ablation d'une partie de votre intestin. Vous portez une stomie, c'est-à-dire une poche extérieure qui recueille vos selles. Tiens, je vous propose d'écouter une note vocale envoyée par Catherine, originaire du département des Vosges.
Je suis maman de deux enfants adultes concernés. Ma fille a été diagnostiquée Crohn depuis 5 ou 6 ans et mon fils il vient d'être diagnostiqué avec une rectocolite hémorragique il y a 3 mois. Ils sont nés tous les deux prématurément par césarienne. Y a-t-il donc des relations génétiques ou des conséquences dues à la naissance ?
Professeur Laurent Perrin-Biroulet.
Alors, première chose, ce ne sont pas des maladies génétiques, héréditaires ou familiales. C'est ça qu'il faut dire, ce ne sont pas des maladies qui se transmettent comme certaines maladies génétiques. Mais il y a un fond génétique, et ce qu'on appelle une ambiance inflammatoire parfois dans les maladies, on le voit bien dans ce cas-là. Et c'est comme toujours, comme le psoriasis, comme le diabète, comme beaucoup de choses, quand il y en a dans la famille... La chance qu'il y en ait un peu plus chez, on va dire, les descendants est un petit peu plus élevée ou chez les frères et sœurs. Mais en tout cas, pour pas culpabiliser les parents, parce qu'on souvent, les parents arrivent, sont effondrés quand c'est diagnostic-là, c'est moi qui lui ai transmis cette maladie-là, ce n'est pas des maladies héréditaires. Et la part génétique, d'ailleurs, il y a 2 décennies, nous y avons beaucoup cru, avec un gène qui a été associé à ces maladies-là. On s'est dit, aïe, on va pouvoir guérir ces maladies-là. 20 ans plus tard, ça a finalement quasiment pas changé notre pratique.
Quel est l'impact des facteurs environnementaux? Des chercheurs ont étudié des populations de migrants qui se sont donc qui ont migré vers des pays industrialisés, et la recherche a montré une forte augmentation des MICI chez ces migrants par rapport à la population résidente. C'est assez étonnant et instructif, ces études.
Ce sont les plus belles études qui ont été faites et menées jusqu'ici. La première chose qu'on connaît depuis des décennies, c'est le tabac. Donc le tabac protège de la rectocolite hémorragique qui aggrave la maladie de Crohn. Bon, c'est un paradoxe assez fou, mais une différence entre les deux. Oui, donc voilà. Mais bon, dans tous les cas, il faut arrêter le tabac pour, bien entendu, son danger à long terme. Non, ces études de migrants sont incroyables, parce que je dis toujours, les gènes ne changent pas dans l'avion. Donc c'est une preuve contre la génétique, parce que les gènes ne changent pas dans l'avion. Mais dès qu'ils passent d'un pays pauvre à un pays riche, on voit une véritable explosion de ces maladies inflammatoires. On le dit toujours, hein, les pays pauvres meurent d'infections, les pays riches meurent d'inflammation et de cancer. Maintenant, c'est bien établi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est qu'ils sont exposés, en particulier, à ce qui est dans l'assiette, quoi, et que ce qui est dans l'assiette et d'autres facteurs environnementaux changent.
Docteur Lacronière.
Oui, c'est tout à fait vrai. On dit que ces maladies sont beaucoup plus importantes dans les pays dits industrialisés, où on est confronté à une alimentation de junk food. Il y a des pistes intéressantes sur...
les additifs notamment.
Et aussi sur certains déséquilibres au niveau des graisses. C'est une piste hein, pour l'instant, mais qui dit qu'un excès d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, dont on sait que les oméga 3 ils sont anti-inflammatoires, peut favoriser que la manière de manger trop de protéines animales avant pourrait augmenter le risque de survenue. Donc il y a des choses qui sont à creuser. Et puis l'alimentation occidentale, riche en graisses saturées, riche peu riche
en additifs.
Voilà, tout à fait. Et puis peu riche dans les nutriments essentiels et pro-inflammatoires.
Les oméga 6, on les retrouve dans quel type d'aliments notamment?
Alors attention, les oméga 6, ils sont importants. Oui. Hein, c'est une famille d'acides gras essentiels. Certains d'entre eux d'ailleurs sont anti-inflammatoires, c'est pour ça que c'est un peu difficile de se retrouver, mais il y a des oméga 6 dans certaines huiles, l'huile de sésame par exemple, l'huile de tournesol, on les utilise quand même. Ce qu'il faut, c'est essayer de rééquilibrer le rapport. Aujourd'hui, on penche trop vers les oméga 6, il faudrait qu'on ait un meilleur rapport en augmentant la consommation d'oméga 3.
Professeur Perrin-Biroulet.
Oui, j'ai eu la chance avant la pandémie de Covid de faire souvent le tour du monde pour parler justement de ces maladies-là. J'étais toujours interloqué, pour ne pas dire plus, lorsque j'allais dans ces pays-là avec des cultures alimentaires, etc., et que je les voyais changer. Et en parallèle, l'épidémie de MICI augmentait, que ce soit dans certains pays arabes, africains, asiatiques. Et je leur disais, gardez votre culture et votre nourriture. Et en fait, il y a une chose qui ressort de tout ça, et je le dis toujours de façon très simple, c'est que manger tout ce qu'il y a dans la nature, ça suffit largement. Quand on me demande qu'est-ce qu'il faut manger, mes patients, je dis, mais manger tout ce qu'il y a dans la nature, les haricots, le riz, des fibres, des légumes, dès que, je leur dis toujours, quand vous voyez quelque chose sur votre table, si ça n'existe pas dans la nature, évitez-le, parce que sinon ça devient trop compliqué. Donc c'est les aliments transformés, ultra transformés, qui sont catastrophiques, additifs, etc. Alors que quand on regarde encore une fois le poisson, la viande, la salade, les haricots, en fait, il y a largement de quoi manger, mais c'est ça qui est en train de créer un gros problème.
Et ça fait écho à ce que nous disait dans cette émission le professeur Tim Spector, qui nous disait ne mangez pas ce que votre grand-mère ne mangerait pas elle-même, hein, notamment l'alimentation ultra transformée, bourrée d'additifs, notamment. On reviendra d'ailleurs sur cette question des additifs, et on s'intéressera également au lien entre le microbiote intestinal et les MICI. En attendant, on écoute Fest Mushaboom. Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh. Unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups. Until the day my dreams will match up with my pain.
tip my cap on a little rug barely on my oh, deep snow, watching the fire as we grow.
Fest, interprété Mushaboom.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
10h32, nous attendons toutes vos questions sur les maladies chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Vous pouvez intervenir au 01 45 24 7000.
On voit effectivement des ulcères.
Voici une coloscopie. Cet examen sert à diagnostiquer ces maladies qu'on appelle MICI ou MICI. Un acronyme qui sonne presque doux pour des symptômes qui ne le sont pas. Douleur abdominale, diarrhée, fatigue, perte d'appétit et de poids. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin ont explosé. Ces deux formes les plus fréquentes sont la maladie de Crohn, qui peut toucher tout le tube digestif de la bouche à l'anus, et la colite ulcéreuse, qui touche uniquement le côlon. Chez 10% des patients, la maladie ne se stabilise pas. Conséquence, leur état se dégrade continuellement.
Petit rappel pédagogique issu d'un documentaire diffusé sur la RTS en 2018. Alors, professeur Laurent Perrin-Biroulet, je rappelle que vous êtes hépato-gastro-entérologue, est-il vrai que les bonnes conditions sanitaires dans les pays développés peuvent expliquer le développement des MICI ? Nous sommes devenus trop propres ?
Alors, c'est l'hypothèse de la théorie de l'hygiène.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
On l'a pas encore complètement confirmé. C'est vrai que l'utilisation, je dirais, large à menu des antibiotiques est probablement délétère puisqu'elle crée des cicatrices au niveau des bactéries de l'intestin qu'elle détruit, qu'elle décapite. Et parfois, d'autres mauvaises bactéries vont pouvoir prendre la place au niveau de l'intestin. Je sais pas. Pour l'instant, on l'a pas encore vraiment confirmé. Ce qui est sûr, c'est que être exposé... voilà, par exemple, quand moi, je dis toujours quand mes enfants, il y a quelque chose par terre qui le ramasse, ils me regardent, ils me disent, je dis, c'est pas du tout grave, tu vas être exposé à tout ça. Et c'est vrai que dans les pays pauvres, une des caractéristiques quand même, c'est qu'ils sont beaucoup exposés aux bactéries, à cet environnement un peu moins propre, et ils sont plus protégés, probablement parce que durant l'enfance, pour développer nos défenses, il faut être en contact avec toutes ces agressions très jeunes. Sinon, quand vous les rencontrez trop tard, à l'âge de 20 ans, quand vous n'avez jamais été exposé à ces agresseurs, et ben là, vous hyper-réagissez et il y a un risque de maladie inflammatoire.
Alors, quel rôle joue le microbiote intestinal, que l'on appelle également flore intestinale ? Est-ce que le manque de diversité du microbiote peut expliquer en partie une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ? Je rappelle que le microbiote intestinal d'un adulte est composé de 500 à 1000 espèces bactériennes. Et quand la flore intestinale est déséquilibrée, on appelle ça une dysbiose.
Exactement. Alors, c'est un sujet de recherche depuis une décennie, là, qui est un sujet de recherche intensive. Quand même, la conclusion aujourd'hui, c'est que on n'est pas certain que ça soit la cause de ces maladies-là. Par contre, c'est un facteur aggravant qui va, en fait, perpétuer les lésions dans le temps. Et une fois que ce déséquilibre s'institue au niveau de la flore, donc que les mauvaises bactéries prennent le dessus, ça va être plus difficile. Et puis, il faut pas oublier, c'est qu'on parle de bactéries, mais aussi les virus et les champignons. Donc, c'est bactéries, virus, champignons. Et c'est tout un écosystème et un équilibre. Et tout ce qu'on fait, ce qu'on mange, le sport, le sommeil et notre alimentation met des coups de canif dans ce microbiote, et parfois c'est irréversible.
Docteur Catherine Lacronière, médecin nutritionniste.
Oui, c'est vrai que la dysbiose, c'est-à-dire le déséquilibre du microbiote, est classiquement associée avec l'augmentation du risque d'inflammation chronique. Il y a eu des études intéressantes pour la maladie de Crohn avec les probiotiques, mais aujourd'hui, les probiotiques, donc ce sont ces microbactéries bénéfiques que l'on prend en complément, qu'on mange dans l'alimentation, dans certains aliments.
Qu'on retrouve dans le yaourt, notamment.
Voilà. Mais aujourd'hui, les études ne sont pas sûres. Elles ne disent pas qu'il faut prendre des probiotiques des probiotiques en complément alimentaire pour améliorer Crohn. Ce qu'on a peut-être, c'est que dans certains aliments, la consommation éventuelle d'aliments riches en probiotiques pourrait être une piste, mais il n'y a rien de sûr aujourd'hui.
Ouais, globalement, les études sont négatives avec les probiotiques parce que c'est plus compliqué que ça. Il y a des milliards de bactéries, elles sont toutes différentes, chaque patient a une flore intestinale différente, donc il faut des approches maintenant, ce qu'on appelle ciblées. Il faudrait savoir ce que le patient a et lui donner la bonne bactérie qui lui manque. Donc c'est l'évolution pour la prochaine décennie.
Bonjour Lucie, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez d'Annecy. Quel est votre témoignage, Lucie ?
Merci de prendre mon appel. Merci pour cette émission très intéressante déjà.
Merci.
Voilà, moi ça fait 6 ans à peu près que je passe de médecin en médecin en expliquant des symptômes divers et variés qui n'ont pas forcément commencé par l'intestin, comme vous disiez en début d'émission. Donc j'ai commencé par un endocrinologue pour des problèmes d'hormones, en passant par un gynéco. Après, on m'a fait faire de l'hypnose, voir un psy. Plein de praticiens et de médecines différentes. Et depuis quelques mois, là, on est en train de diagnostiquer une inflammation de l'intestin, justement grâce à la calprolactine que vous avez évoquée. Mais en fait, je voulais témoigner de la difficulté de la prise en charge de ces symptômes par la médecine conventionnelle, où je suis sortie de chez des gastro-entérologues avec une liste justement des fameux FODMAP, où on nous dit il faut pas manger ça, 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 et c'est une liste interminable pour moi, c'est pas viable à long terme d'exclure autant d'aliments de son alimentation. A priori, je pense que le corps est capable de tout digérer. Et finalement, la piste aujourd'hui que je prends, c'est avec un micronutritionniste qui, justement, vous avez évoqué les oméga 3, 6, etc., qui vient s'intéresser, on va dire, à l'origine de l'inflammation et à rétablir le microbiote intestinal.
Et c'est vrai, Lucie, nous avons beaucoup de témoignages qui vont dans votre sens. Christophe qui nous demande quel est l'effet réel du régime sans gluten et sans lactose contre les maladies inflammatoires du tube digestif. Professeur Perrin Biroulet, beaucoup de patients sont tentés de quitter entre guillemets la médecine conventionnelle, la médecine tout court, pour tenter d'autres expériences qui leur permettraient peut-être de guérir de leur maladie inflammatoire chronique de l'intestin.
Oui, ce que je peux comprendre, je dirais que plus on vieillit en tant que médecin, quand on est plus jeune médecin, on est toujours sur la médecine traditionnelle à 100%. Je dirais que ça peut être en complément, ça peut parfois aider un petit peu. Moi, j'ai pas de problème par rapport à ça, mais le traitement de base de ces maladies inflammatoires reste quand même traditionnel. Donc, la base, c'est de voir son gastro-entérologue pour avoir un traitement adapté à sa MIKI. Après, faire un peu d'hypnose, de yoga, différentes choses en plus, si on se sent mieux. Pourquoi pas? Je suis pas contre.
Docteur Lacronière.
Je voulais revenir sur les FODMAP qu'évoquait.
Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors justement, c'est un acronyme pour décrire des sucres de petite table qu'on appelle fermenticides. C'est-à-dire ces sucres, quand ils arrivent au niveau du côlon, ils vont fermenter, ils vont donner des gaz. Donc les FODMAP, c'est toute une liste d'aliments, des fruits, des légumes, des produits céréaliers qui contiennent ces sucres et qui vont donner des signes digestifs. Donc c'est vrai que on peut conseiller le FODMAP dans le syndrome de l'intestin irritable, qu'il, rappelons-le, n'a pas de rapport.
Peut-être. Oui, nous avons beaucoup de questions en ce sens-là. Tiens, petite incise dans cette émission. Est-ce que le syndrome de l'intestin irritable est une maladie inflammatoire de l'intestin ?
Non, pas vraiment. En fait, le syndrome de l'intestin irritable, ce qu'on appelle l'intestin fragile ou sensible.
La colopathie fonctionnelle
qui touche un Français sur 4 ou 5, un peu plus les femmes, pour des raisons qu'on ignore. C'est en fait une fragilité de l'intestin. Mais quand on fait une coloscopie, elle est totalement normale. Et quand on fait une entéro-IRM, elle est totalement normale.
On ne voit pas d'inflammation.
Il n'y a pas d'inflammation. Et quand on fait une calprotectine fécale, elle est normale. Donc c'est très fréquent, mais ça nécessite parfois des exclusions, comme les FODMAP, qui marchent plutôt bien chez ces patients-là. Le message dans les MIKI, pas de régime d'exclusion.
Ginette Mercier, je rappelle que vous êtes l'auteur de Macron de vie, une BD qui raconte votre maladie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Lucie ? Est-ce que vous avez vécu la même chose que Lucie ?
Alors moi, j'ai pas connu l'errance médicale, mais il y a plusieurs choses avec le recul. Déjà, c'est que effectivement, l'alimentation peut jouer un rôle dans le bien-être et peut-être la rémission suivant les cas. Mais il y a quand même énormément de cas différents de maladies de Crohn. Je pense que si c'était qu'une question d'alimentation, moi, par exemple, qui ai grandi avec ma sœur qui a un an et demi de plus que moi, qui a mangé la même chose, qui a fait les mêmes activités dans le même environnement, elle est pas du tout malade. Donc, et alors qu'on a mangé aussi la même chose. Donc, je pense qu'il n'y a pas que l'alimentation. Et moi, j'en ai essayé des régimes. J'ai fait le régime sans gluten, par exemple, sans lactose. Je mange déjà très très peu de viande, c'est pas mon truc. Et finalement, pendant ces 12 années de tentatives à gérer mon alimentation et à équilibrer avec des probiotiques, des choses comme ça, chez moi, ça n'a rien changé. Mais je sais que pour certains patients, par contre, effectivement, ça peut être une aide en plus, en fait. C'est toujours mieux d'avoir une bonne hygiène de vie, en tout cas, pour prendre le problème dans sa globalité. Mais je pense pas que ça va forcément guérir, enfin soigner efficacement et durablement la maladie de Crohn, dans tous les cas, en tout cas.
Merci beaucoup, Lucie, de nous avoir appelés. Il est temps de retrouver la chronique « Alors voilà » de notre médecin et romancier, Baptiste Beaulieu.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu en duplex de sa bonne ville de Toulouse. De notre bonne ville de Toulouse.
Oui, effectivement. Oui, Ali. Je voulais vous raconter comment l'autre jour, un patient me dit « Moi, je ne veux pas me faire vacciner, docteur, je trouve que ça va trop loin, cette histoire de virus. » Elle est magnifique, cette phrase, Ali. « Je trouve que ça va trop loin, cette histoire de virus. » Elle est à la fois tellement humaine, banale et en même temps tellement métaphysique. « Je trouve que ça va trop loin, cette histoire de virus. » Comme si, je sais pas, on pouvait lever un index menaçant, agiter le bras et dire d'un ton énervé « Je te préviens, ça suffit encore une fois et tu vas dans ta chambre, Covid. » Moi, je ne veux pas me faire vacciner, docteur, je trouve que ça va trop loin, cette histoire de virus. Mais c'est la vie qui va trop loin, monsieur. À partir du moment où, quand on est, on fait mal à nos mères, la vie est déjà allée trop loin. Et après quoi? On est venu au monde, on aime, on souffre, on vieillit, on a mal aux articulations. Les gens qu'on a aimés et que la vie nous a fait aimer s'en vont, ils meurent. La vie n'est faite que de ça, de la vie qui va trop loin, tous les jours, tout le temps. La vie va trop loin et c'est le principe même de la vie, elle exagère, elle outrepasse les limites. Quand tu as 10 ans et que ton chien meurt, la vie va trop loin. Quand tu as 12 ans et que tu sauves une abeille de la noyade et que l'abeille te pique en retour, la vie va trop loin. Quand tu as 20 ans et que la personne que tu aimes tombe amoureuse de quelqu'un d'autre ou qu'on t'annonce par exemple une maladie de Crohn, là aussi la vie va trop loin. Quand tu as 3 enfants, un mari qui n'est pas assez présent, que personne ne voit à quel point tu es fatigué, la vie est allée trop loin. Quand tu as l'impression que ton existence ne t'appartient plus, ou n'est pas celle dont tu avais rêvé quand tu avais 10 ans de moins, à chaque seconde de cette existence-là, la vie va beaucoup trop loin. On fait quoi alors? Est-ce qu'on court derrière? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas, faire demi-tour? Mais non, parce qu'elle en fait qu'à sa tête. Alors quoi? Cette pandémie, c'est la vie qui va trop loin, Ali. Mais c'est aussi et surtout l'histoire avec un grand H, l'histoire avec ses drames et ses dénouements, ses événements qui nous laissent dans l'incertitude, avec ses personnalités qui se révèlent en positif ou en négatif, ses personnalités qui font leur beurre sur la crise, les politiques qui s'en servent pour leurs agendas, les personnes d'en bas laissées sur le carreau, les personnes d'en haut qui trouvent à en tirer bénéfice. La pandémie, c'est la vie qui va beaucoup, beaucoup trop loin. Et nous, si je peux dire, Ali, nous sommes dedans jusqu'au cou. Alors, hop, 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 prenez soin de vous les gens, prenez soin de votre santé mentale. C'est ok de ne pas être au mieux de sa forme en ce moment, on a le droit, tenez le cap. Nous vivons l'histoire et on va y arriver. Tous les drames ont leur dénouement ou leur résilience. Il viendra un jour où nous pourrons lever les masques, voir nos visages de nouveau et nous serrer dans les bras. Ce sera merveilleux et là aussi, Ali, ce sera une preuve supplémentaire. La vie, en bien ou en mal, va trop loin. Hier, maintenant, demain, et c'est comme ça. Prenez soin de vous.
Et vous pouvez partager, réécouter la chronique de Baptiste Beaulieu sur le site et l'appli France Inter. Dans quelques instants, on continue à s'intéresser aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. En attendant, on écoute Delgrès qui interprète ces mots-là.
Dis-moi ça qui vive, pourquoi on t'appelle, dis-moi ça qui
ça qui passait, dis-moi ça qui passait. Qui raison qu'à pleurer, qui raison qu'à cacher. Dis-moi ça qui passait, dis-moi la vérité. Dis-moi ça qui passait dans la cour. Laissez-moi vivre.
Del Grey interprétait Semola.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
10h48 et nous attendons toutes vos questions sur les maladies chroniques, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Je vous propose d'écouter le chercheur Benoît Chassin.
Benoît Chassin est un chercheur français de l'Université de Géorgie aux États-Unis. Ses travaux portent sur les effets de deux agents émulsifiants sur le microbiote, le E433 et le E466. On les retrouve dans des produits de boulangerie, des sauces, des soupes, des biscuits, des crèmes ou certaines conserves. On les rencontre même dans certains produits sans gluten. Benoît Chassin a travaillé avec des souris génétiquement prédisposées à développer des MICI. Il leur a donné ces agents émulsifiants à des doses mimant celles que consommerait l'homme dans différents aliments transformés. Résultat, avec ces deux émulsifiants, les souris voient leur MICI apparaître plus vite et sous des formes plus sévères.
Et ce qu'on a pu montrer, c'est que les agents émulsifiants allaient directement impacter le microbiote intestinal et ce microbiote intestinal allait par la suite pouvoir induire l'inflammation intestinale.
Il a également travaillé avec des souris saines. Et là aussi, ces émulsifiants ont induit des dysfonctionnements.
On a fait exactement la même chose sur des souris qu'on appelle sauvages, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas génétiquement prédisposées, qui vivent très bien normalement. Et chez ces souris, on avait quand même une induction d'inflammation intestinale très légère, une inflammation intestinale vraiment de ce qu'on appelle de bas grade, vraiment modérée, mais qui était associée à des dérégulations métaboliques. Ces souris, quand elles consommaient des agents émulsifiants, elles gagnaient plus de poids, elles développaient de l'obésité et elles développaient un prédiabète.
Un extrait d'un documentaire diffusé sur la RTS en octobre 2018, des travaux passionnants, professeur Laurent Perrin-Biroulet, de votre confrère Benoît Chassin.
Qui est depuis retourné en France, hein, depuis quelques années. Il travaille à Paris, ce qui est énorme et exceptionnel pour la recherche française. Petite limite, on n'a toujours pas trouvé le modèle chez la souris qui correspond au modèle de MICI chez l'homme. Donc avant de pouvoir extrapoler ces données chez la souris à des données chez l'homme, la route est encore longue et on va devoir mener des essais cliniques chez l'homme en évitant ces émulsifiants pour voir si on peut améliorer les choses et notamment l'inflammation.
Alors beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Est-il possible de prévenir une maladie chronique, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, une MICI grâce à une alimentation dédiée, docteur Lacronière?
Ce serait fantastique, mais malheureusement, il n'y a pas de méthode miracle. Mmh. Et comme on a dit, c'était donc plurifactoriel. Alors bien sûr, il y a certaines manières de manger qui vont faire apparaître les MICI plus rapidement. Et cette manière de manger, c'est les aliments ultra transformés, donc la junk food. C'est le fait, comme on disait très bien tout à l'heure, d'utiliser des aliments qui finalement sont très vides dans les nutriments essentiels, et en particulier dans les fibres. Ces fibres, on va peut-être y revenir, parce que l'alimentation des Français Français en manque. On en mangeait beaucoup plus avant. Aujourd'hui, eh bien, par la modification de l'alimentation, par le fait qu'on mange en effet moins de fruits et de légumes, malgré les recommandations gouvernementales, eh bien, il y a moins de fibres dans l'alimentation. Et puis aussi parce que ces fibres, eh bien, on se dit quand on a une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qu'elle va nous faire mal au ventre, alors qu'elles sont tout à fait primordiales.
Professeur Laurent Perrin-Biroulé, c'est vrai que c'est contre-intuitif de se dire, tiens, je vais manger des fibres alors que mon intestin est plutôt malade.
Oui, alors il y a la prévention, puis il y a le traitement. Dans la prévention, donc c'est vrai ce que disait ma collègue, dans la prévention, alors c'est des études dures à mener, hein, parce que montrer qu'une maladie qui touche 300 000 personnes en faisant des études, on va la prévenir. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le drame du siècle écoulé. On est passé de 100 grammes de fibres par jour à 10 grammes de fibres par jour, alors qu'il faudrait être autour de 20-30 grammes de fibres par jour. Donc la règle des 5 fruits et légumes, etc., il faut apporter des fibres pour peut-être prévenir les Mickey. Pourquoi ? Parce que les bonnes bactéries, pour se développer et être en parfaite santé, ont besoin de ces fibres. Donc ça, c'est essentiel si on veut prévenir les Mickey. Pendant les poussées, la règle est très simple. Poussée légère à modérée ou pendant les phases de rémission, il faut manger le plus sainement possible, ce qu'on a dit. Pendant les très très grosses poussées sévères, quand on a très mal au ventre, qu'on a la diarrhée, là on va faire des régimes d'exclusion très courts, quelques jours, le temps que ça s'améliore. Et là, bien entendu, on fait des régimes sans résidus pour soulager l'intestin, mais très très vite on le reprend. On ne fait plus ce que j'ai vu récemment encore, un patient qui mange des pâtes depuis 10 ans et qu'on lui a jamais dit qu'il fallait qu'il reprenne un régime normal.
Juliette Mercier, vous êtes l'autrice de Macron de vie. À quoi ressemble votre régime alimentaire actuel ?
Alors actuellement, avec l'astomie, je mange de tout. Donc j'ai pas de restrictions et je mange équilibré, voilà, avec des féculents, des fibres et des protéines. Mais c'est vrai qu'avec la maladie de Crohn, par contre, je suis même tombée dans les travers de troubles alimentaires finalement. Parce que c'est ce que vous dites, c'est quand on a l'intestin inflammé qu'on va beaucoup aux toilettes, on va éviter finalement les fruits, les légumes crus. Bon, je sais que moi, je mangeais quand même de la compote, des choses comme ça pour essayer de compenser, mais je mangeais essentiellement des féculents. Et finalement, ça a été un cercle vicieux qui a fini par entraîner des carences, des anémies et puis une dénutrition jusqu'à l'opération.
Alors, cette opération, c'est la stomie. On vous a posé une stomie. Expliquez-nous ce que c'est exactement, professeur Laurent Perrin-Biroulé.
Alors en fait, quand l'intestin est enflammé et que les médicaments ne marchent plus, les médicaments à notre disposition...
Quels sont les médicaments d'ailleurs ?
Alors les médicaments, je dirais que principalement dans les Mickey, il y en a deux types. Il y a dans la rectocolite hémorragique les aminosalicylés et puis toute la nouvelle génération des biothérapies, des petites molécules, on pourra peut-être y revenir. Puis dans la maladie de Crohn, c'est principalement les biothérapies, avec l'arrivée notamment des anti-TNF. Il faut savoir que la stomie, en fait, c'est quoi ? C'est quand on n'en peut plus, que le patient n'en peut plus, que les traitements ne marchent pas, on va aboucher l'intestin à la peau et on va faire cet abouchement en amont des lésions. Donc par exemple, si votre côlon est inflammatoire, on va aboucher l'intestin grêle à la peau pour que tout ce qui est en dessous de votre poche ne soit plus exposé au flux de bactéries et au flux de sel. Et c'est impressionnant parce que souvent, en quelques jours, ce qui montre bien quand même le rôle de bactéries, etc., votre intestin va se mettre au repos et l'inflammation va disparaître.
Juliette Mercier, comment vit-on cette stomie au quotidien ?
Alors moi, je le vis bien. J'ai la chance d'avoir une stomie qui est plutôt facile, qui fonctionne et qui m'a libérée de mes symptômes. Donc il y a eu quand même une mise en place, une adaptation pour apprendre à faire les soins, à justement est-ce que je peux manger beaucoup de crudités d'un coup et puis une fondue savoyarde et aller faire du canoë, ou est-ce qu'il faut quand même mettre un petit peu riz dans tout ça. Mais c'est vrai que moi je me sens complètement libérée et normale. Ça me prend 5 minutes le matin pour changer ma poche, et ensuite je peux travailler, je peux faire des activités, je peux aller au restaurant. En fait, j'ai plus les contraintes des symptômes de la maladie que je connaissais avant.
Et puis il y a un travail à faire aussi d'explication dans la vie intime sur cette stomie.
Oui, alors déjà il faut l'accepter soi-même parce que ça change, on va changer notre image et c'est souvent ça un petit peu ce qui fait le plus peur finalement, c'est cette poche, cette soumise, est-ce que ça va pas intenter à ma féminité ou à ma virilité ? Qu'importe. Et puis finalement, on se rend compte, en tout cas moi, je me suis rendu compte en m'exposant, en parlant et en communiquant, que ce que je recevais, c'était de la bienveillance et de la compassion. Et que donc, une fois l'explication passée, ben là, on passait finalement à qui es-tu, qu'as-tu fait dans ta vie, et un rapport d'humain-humain normal. Et puis, il faut... Il faut accepter aussi de se montrer et d'avoir quelques petites contraintes pour apprendre vraiment à vivre avec et à voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire, en fait. Il faut se lancer.
Bonjour Victor, on termine avec vous. Bienvenue.
Bonjour. Alors j'aimerais juste passer un témoignage d'espoir et remercier le professeur Perrin Biroulé parce que je suis atteint d'une maladie de Crohn et j'ai recherché un traitement efficace pendant des années avec toutes les galères qui s'y accompagnent. Et à force de persévérance, de résilience et de gens comme M. Perrin Biroulé qui recherchent des traitements, on a fini par en trouver un, d'ailleurs à Nancy. Et puis maintenant, je vis une vie tout à fait normale et tout à fait stable. Donc le dernier message que je passerai, ça serait vraiment de la persévérance et puis on va y arriver.
Persévérance, expliquez-nous en quelques mots, Victor.
C'est-à-dire que j'ai testé tous les traitements existants, donc les anti-TNF-alpha, les corticoïdes à un moment, et puis finalement c'est du vedolizumab, donc c'est ces nouveaux traitements qui sont efficaces et qui ont stabilisé mes phases de poussée. Et puis là, j'ai une vie tout à fait normale.
Mais voilà, message inattendu de Victor, vous remerciant, docteur Perrin Biroulé. Merci beaucoup Victor pour ce message d'espoir. Merci beaucoup docteur Catherine Lacremière, professeur Laurent Perrin Biroulé. Merci Juliette Mercier, je recommande vraiment votre BD, Ma Crohn de vie, histoire d'une rescapée à l'intestin malade. C'est absolument formidable, c'est très drôle, très instructif et c'est publié par chez Le Duc Graphique. Demain, quand les animaux sont touchés par des troubles psychiatriques. C'est notre menu demain et cette semaine au menu, vous aurez le plaisir de lire Agatha Christie ou Quand histoire et cuisine font bon ménage.